Investigation, Justine Katz.
Aujourd'hui dans Investigation, on vous emmène dans l'univers complotiste. Un mouvement qui existe depuis bien longtemps, mais qui a connu un succès retentissant pendant la crise du Covid-19, le complotisme. Les réseaux sociaux lui ont donné un écho sans précédent. Qui sont les adeptes de ces théories? Comment bascule-t-on dans la mouvance conspirationniste? On s'intéressera aussi aux risques de violence et aux dangers que le complotisme peut représenter pour nos démocraties. On analysera la situation actuelle après la levée des mesures sanitaires. On verra que les complotistes se tournent vers d'autres thématiques plus porteuses. On en parlera avec nos invités dans quelques instants, un ancien complotiste et un professeur de criminologie spécialiste de ces mouvements. Mais d'abord, Tristan Godard est avec nous. Vous êtes journaliste à Investigation. Vous avez enquêté sur cette mouvance complotiste au printemps 2021. C'était donc il y a un peu plus d'un an. Une enquête qui démarre en Belgique, mais qui vous a mené bien plus loin.
Oui, au total, ce sont 5 mois d'enquête entre janvier et mai 2021. 5 mois au contact de ceux qui adhèrent ou adhérer au mouvement complotiste. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est alors en pleine crise sanitaire, avec encore des mesures de confinement. Alors, à l'époque, on a tenté de comprendre quelles étaient les motivations de ceux qui basculent dans le complotisme, les mécanismes qui les poussent à croire à des théories parfois très extrêmes. On a découvert chez certains une certaine colère, voire même de la haine envers les autorités politiques et les médias. Cette idée qu'une puissance maléfique tire les ficelles. Et cette méfiance générale, on l'a retrouvée aussi bien en Suisse, aux États-Unis qu'en Belgique. Car tout le monde le sait désormais, grâce ou à cause des réseaux sociaux, il n'y a plus de frontières.
Quand le doute vire au complot, c'est notre investigation du jour. Elle est signée Tristan Godard, Clémence Datte, Stéphanie De Smet, Arthur Gillet et Amaury Boucher.
Complotiste. Personne qui croit que les événements mondiaux sont fomentés par un groupe de personnes souhaitant gouverner et nuire au plus grand nombre pour assouvir leurs intérêts.
L'enquête débute au sein de la rédaction. Je passe plusieurs heures à décortiquer les images des manifestations qui se déroulent en plein cœur de la crise sanitaire. Comme celle du 16 août 2020 à Bruxelles. Une action contre le port du masque obligatoire.
Il y a clairement une forme de manipulation, oui. Pas juste pour le coronavirus, mais pour le coronavirus, je pense que la forme de manipulation, elle dépasse toutes les limites imaginables.
Ou encore celle du 31 janvier 2021. Une manif contre les mesures anti-Covid.
Vous n'avez pas la liberté de dire ce que vous voulez à la TV et je ne vous en veux pas, mais voilà, ça ne sert à rien de parler avec des médias mainstream.
Lors de ces événements, des détails attirent mon attention. Plusieurs manifestants brandissent des pancartes avec des slogans plutôt étranges.
Stop aux pédophiles!
Protégez nos enfants!
D'autres abordent des t-shirts à la gloire de QAnon. Un mouvement conspirationniste qui fait beaucoup parler de lui aux États-Unis depuis 2017. Cette fois, je n'ai plus de doute, les complotistes s'invitent dans nos manifestations. J'ai passé 5 mois auprès d'eux. Certains sont de véritables leaders d'opinion, d'autres, comme Danielle Goyens, simple sympathisant de théories conspirationnistes. Je la rencontre chez elle à La Nef, en région namuroise. Danielle est propriétaire d'un immense gîte touristique qui fonctionne au ralenti depuis le début de la crise sanitaire.
Moi, je pense que le virus, c'est un prétexte pour instaurer une gouvernance mondiale, le Grand Reset. Moi, je connais personne qui est décédé autour et j'ai beaucoup de respect et beaucoup de peine pour les personnes qui ont perdu autour d'eux des personnes. Mais ce n'est pas pour ça qu'on bloque une économie. Pour moi, ce n'est pas un prétexte pour bloquer. Il y a autre chose derrière et pour moi, c'est planifié depuis longue date.
Le Covid a bouleversé l'activité économique de Danielle Goyens. Au moment où je l'interview, un débat est au cœur de l'actualité. Le vaccin à ARN messager.
Pour moi, c'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe. Que le système immunitaire va tout doucement se diminuer avec ce pseudo-vaccin qui est une dérapigénique et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont décéder. Et pour moi, c'est fait exprès aussi pour dépeupler, pour qu'il y ait beaucoup moins de monde.
Ces idées, ce sont des théories du complot massivement relayées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est par ce seul moyen que Danielle s'informe. Elle ne regarde plus la télévision, n'écoute plus la radio, ne lit plus les journaux. Autrement dit, toute information issue des médias traditionnels, les médias mainstream, comme elle les appelle.
Je prends mon GSM, quand j'ai 2 minutes, hop, je vais sur Facebook, et alors je lis, je regarde l'actualité.
Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous détacher de, par exemple, des médias mainstream et de plus en plus suivre ces personnes-là
Je vais vous dire la vérité.
Ouais, allez-y.
Vous allez être choqués peut-être.
Non, allez-y.
Parce que pour moi, il y a des gens plus hauts qui payent certaines personnes pour toujours dire la même chose.
Donc nous, les médias.
Je sais pas.
En consommant à longueur de journée ce genre d'informations biaisées et détournées, les partisans de ces théories s'enferment dans ce qu'on appelle une bulle d'information. Une sorte de monde parallèle, constitué de réalités alternatives. Pour y voir plus clair, je prends le train, direction Paris. C'est là que je rencontre Samuel Laurent. Il est auteur et journaliste pour le quotidien Le Monde. Il connaît parfaitement les réseaux sociaux et ces fameux algorithmes qui entraînent certains dans cette bulle.
Si on prend le cas de Facebook, Facebook c'est fait pour vous offrir des choses qui sont en rapport avec ce que vous aimez. Donc imaginons que vous vous intéressiez, je ne sais pas, aux maquettes d'avions. Vous vous abonnez à un compte de maquettes d'avions, tout de suite on va vous proposer trois autres comptes de maquettes d'avions. Alors vous vous abonnez à vos trois autres comptes, et puis au bout d'un moment, dans votre timeline, dans le fil des informations qui défilent, vous n'allez plus avoir que des maquettes d'avions. Donc quand c'est des maquettes d'avions, c'est pas grave, mais quand il s'agit de parler d'immigration, quand il s'agit de parler d'anti-masques, et c'est pareil, vous allez vous abonner à des comptes, et puis c'est très vite, ça fonctionne en communauté, c'est-à-dire que telle autre personne que vous avez rencontrée, avec qui vous avez échangé, vous la trouvez sympa, donc vous vous abonnez à elle. Et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et au final, dans votre timeline, l'endroit où vous allez vous informer, petit à petit, il va y avoir que ça. Et ça va parler que d'un sujet. Ça crée ce qu'on appelle des effets de filtre ou des effets de bulle, qui font que vous vous enfermez, sans vous en apercevoir, dans une bulle de certitude où vous ne voyez plus que ça, quoi.
Retour à la rédaction, à Bruxelles. Je veux tester par moi-même cette bulle d'information. Je m'inscris d'abord sur plusieurs réseaux sociaux, comme Facebook, un profil créé de toutes pièces, une fausse photo et de fausses informations sur mon lieu de naissance et mon emploi. J'adhère à quelques groupes complotistes, j'ajoute quelques personnages facilement repérables et puis très rapidement, mon profil devient assez populaire au sein de ces milieux. De semaine en semaine, les demandes d'amis explosent et sur mon fil d'actualité, je ne vois désormais plus que des infos contestataires et conspirationnistes. Tout y passe. Plan machiavélique de Bill Gates, vaccin avec puce intégrée ou encore fausse pandémie créée de toutes pièces par les gouvernements. On m'invite aussi en privé, via des messages étranges, à me rebeller et à manifester contre les mesures sanitaires.
Nous sommes rentrés dans une dictature totale, il n'y a plus de liberté d'expression, tout devient censuré.
Un véritable message de propagande. On me propose de participer à de nombreuses manifestations pour soutenir l'ORECA, protester contre l'arrivée de la 5G ou dénoncer le discours des médias mainstream. A priori, rien de complotiste. Pourtant, en mars 2021, lors d'une action organisée devant les bureaux bruxellois de la RTBF, la chaîne publique belge, je tombe nez à nez avec un personnage plutôt particulier.
Je me fais nommer sur les réseaux sociaux Alex le complotiste. Quand je dis Alex le complotiste, c'est parce que c'est entre guillemets.
Beaucoup de gens m'écoutent, beaucoup de gens comprennent, d'autres ne comprennent pas.
Ouais, beaucoup. Enfin, vous avez une
Écoutez, je vais pas te dire que j'ai la plus grande notoriété de Belgique, loin de là. Moi, Alex le complotiste, j'ai commencé il y a 3 mois. Aujourd'hui, je fais peut-être 25 à 30 000 vues. Je veux dire, c'est pas énorme hein, ce que je fais, mais bon, voilà, j'ai quand même pas mal d'impact. On me connaît quand même dans les lieux de manifestation.
Alex le complotiste, un jeune bruxellois de 26 ans qui travaille dans l'ORECA. Depuis le début de la crise du Covid, il poste régulièrement sur sa page Facebook des vidéos enregistrées en direct dans lesquelles il commente l'actualité,
bonjour les amis,
critique les mesures sanitaires,
bonjour, c'est Alex le complotiste,
ou diffuse des théories du complot.
Vous qui croyez, après l'assassinat de Luther King, de Coluche, de Balavoine, de Gandhi, de John Fitzgerald Kennedy, ils ont toujours été assassinés par les états profonds. Quand vous sortez, vous avez déjà vu quelqu'un crever? Si c'était une pandémie, ce serait comme la grippe espagnole ou la peste, les gens crèveraient par terre.
On va continuer à foutre la merde et on va leur mettre au cul à ces ministres.
Au début, ça m'a semblé un peu drôle. Et pourtant, depuis qu'il a commencé la diffusion de ses vidéos, sa communauté de fans grandit de jour en jour. Chacun de ses directs est regardé et commenté par des milliers de fans. J'ai demandé à le rencontrer. Et je l'avoue, j'ai été un peu étonné qu'il accepte de me recevoir chez lui, dans son appartement situé dans le nord de Bruxelles. La rencontre se déroule 2 semaines après la manif. On parle de ses vidéos, de ses prises de position politiques et des théories du complot qu'il soutient. comme celle sur l'accident de voiture de Lady Di.
D'après les divers documentaires que j'ai eus et d'après certaines personnes que j'ai rencontrées dans le milieu, il y aurait justement une personne proche de la famille royale britannique qui, sur son lit de mort, aurait fait des aveux. Je sais, ça a été démenti des centaines de fois. Mais plusieurs personnes ont encore ce doute.
Quel document ou quel milieu dont vous parlez, que vous aviez eu ou vu ?
Alors, je peux pas parler avec des noms, mais en tout cas... Allez, comment être plus précis à ce niveau-là ? Parce que j'aimerais pas quand même pas affoler les personnes qui m'en ont parlé, mais c'est une histoire assez compliquée. Et imaginez que c'est une personne de votre famille et de se dire, bon, voilà, l'affaire a été classée sans suite. Ouais. Je veux dire, c'est comme ça, mais que t'es pas convaincu. T'aimerais quand même bien qu'on aille chercher plus loin, tu vois ? C'est comme, je sais pas, on parle de l'affaire du trou. Ça, c'est sujet sensible en Belgique. Mm-hmm. Beaucoup de personnes sont convaincues qu'il n'y a pas que du trou, j'ai envie de vous dire.
C'est un réseau,
bien sûr. Et d'ailleurs, les rapports d'autopsie de Julie et Mélissa que j'ai eu en ma possession, sont clairs.
Alex a plein de théories du complot sous le coude. Grâce ou à cause de la crise sanitaire, il est devenu une sorte de leader d'opinion. Populaire au sein des manifestations, et même invité à donner son avis sur les plateaux de médias dits alternatifs. Un personnage qui est du genre à inquiéter Olivier Klein et Marie Pelletier, deux experts reconnus dans l'analyse des mouvements complotistes.
Parfois, il y a une forme d'ambiguïté, hein, mais ne vous laissez pas faire, libérez-vous de vos chaînes, et souvent avec des analogies guerrières. Donc, il parle souvent de résistance. Eh bien, la résistance, malgré toute l'admiration qu'on peut avoir, c'est quand même un mouvement violent.
Je pense qu'on a fait une erreur d'analyse, c'est que de penser que c'était un phénomène marginal pendant longtemps. Aujourd'hui, on est dépassé par le phénomène, et effectivement, on a des figures publiques, on pourrait dire ça comme ça, qui en ont fait un fonds de commerce.
Dans ma bulle d'information, beaucoup d'idées semblent venir d'un seul et même pays, les États-Unis. Une sorte d'eldorado des théories du complot. Et un mouvement a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, QAnon. Pour ses partisans, il existerait un complot mené par un État profond, pédophile et sataniste, qui implique les démocrates comme la famille Clinton. L'État profond aurait également infiltré Hollywood et les médias. Les partisans de cette thèse croient aussi que l'ancien président Donald Trump livre une guerre clandestine pour combattre cette élite maléfique. Q, c'est un messager qui distille des informations aux anons, également appelés soldats digitaux. C'est ensuite à eux de développer la suite de l'histoire. Pour en savoir plus, retour chez Olivier Klein, spécialiste des mouvements complotistes.
C'est des annonces qui sont assez difficiles à interpréter. Hein. C'est un peu comme la parole de Dieu, on peut l'interpréter de différentes façons. Et que font les membres du mouvement ? Ils essayent de l'interpréter. Et donc, en fait, il y a vraiment toute une dynamique sociale qui entretient en quelque sorte le complotisme et qui fait que ça devient vraiment aussi... Ça s'ancre dans une appartenance.
Durant de longues semaines, j'ai établi un contact avec Richard Pockner, qui se fait appeler le journaliste citoyen. Un partisan des théories QAnon, très actif sur les réseaux sociaux, comme Telegram. Il y poste quotidiennement des vidéos tournées à Washington DC, la capitale. Dans ces vidéos, Richard filme des couloirs d'hôpitaux vides afin de prouver que le Covid est une fausse pandémie. Mais aussi des bâtiments administratifs américains avant l'aube afin de prouver qu'il n'y a aucune activité gouvernementale. Il est suivi par des centaines de milliers de fans.
Où sont les malades ? C'est une pandémie ? Je ne vois pas de pandémie. Ne me touchez pas. Où sont les malades ? Cet hôpital est vide. Il n'y a personne ici.
Richard m'a donné rendez-vous à 3h45 du matin tapante dans le centre de Washington. Les rues sont désertes. Il est un peu sur les nerfs quand je fais sa rencontre. Je me trouve sur le trottoir. Lui est au volant de sa voiture, fenêtre baissée et casquette pro-Donald Trump vissée sur la tête. Il m'explique être certain d'être suivi par les services secrets américains.
Ça a commencé il y a 6 semaines. C'est dingue, vous allez voir, je vous montrerai.
Donc là, on pourrait être suivi ?
Ouais, on l'est sans doute déjà. Je suis une véritable cible et je tente d'échapper.
La couleur est annoncée. Richard Pockner est un vétéran de l'armée, orienté très à droite politiquement. J'embarque dans sa voiture pour une virée de 3 heures dans les rues et la banlieue de la capitale. L'occasion de parler de ses vidéos.
Je me suis rendu et j'ai filmé dans les hôpitaux en mars 2020, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août. Des centaines d'hôpitaux vides. C'est ça que je faisais sur Twitter. Et moi, je sais que personne n'est réellement malade. Là, sur votre droite, il y a la Maison Blanche. Vous pouvez le voir vous-même. Il n'y a même pas de lumière dans le paysage. Même pas dans les arbres. Rien.
Est-ce que cela veut dire que le président n'y est pas réellement ?
Ça pourrait vouloir dire... Je sais pas. J'essaie de ne pas dire ce que j'en pense, moi. J'ai envie que les gens se fassent leurs propres opinions.
Mais quel est votre avis personnel ? Honnêtement.
Je suis vraiment inquiet, c'est tout ce que je peux te dire.
Les vidéos qu'il poste quotidiennement alimentent les théories du complot de ses fans. Certaines de ses idées sont donc proches de QAnon, dont le signe de ralliement trône fièrement dans sa voiture. Where we go one, we go all. Une sorte de un pour tous, tous pour un, version conspiration. Le jour se lève sur Washington DC, et probablement plus à l'aise en ma compagnie, Richard décide enfin d'étaler toutes ses théories du complot sans plus aucune gêne.
En 2001, j'étais étudiant à l'université, j'étudiais l'acier. Et les tours de World Trade Center se sont écroulées. J'étudiais donc l'acier, et je sais très bien que le kérosène ne peut pas faire fondre l'acier. Le kérosène, c'est avec ça que volent les avions. Enfin, c'est ce qu'on prétend. Et les tours sont tombées, comme ça. À l'époque, j'ai dit que c'était impossible. On a voulu me mettre en hôpital psychiatrique pendant 2 semaines.
Ah bon ?
Depuis 20 ans, je questionne tout. C'est pour cela que tout ce qui se passe autour de nous ne m'impressionne pas. Ça devrait surprendre le reste du monde, mais pas moi.
Avant de quitter Washington, je rencontre Jared Holt, un spécialiste américain des réseaux sociaux et de l'extrémisme. Je lui montre les vidéos de Richard Pochner pour savoir quel impact elles pourraient avoir sur ceux qui les regardent.
Les théories complotistes que relaye cette personne, c'est une sorte de business. C'est offrir des preuves à ceux qui en veulent. Et diffuser des images de la Maison Blanche non éclairée pendant la nuit, en soi, ça n'a rien d'intéressant. Mais pour certaines personnes qui cherchent n'importe quoi pour valider leurs pensées, comme par exemple que Joe Biden n'est pas vraiment le président, ou peut-être que Trump est secrètement encore le président, eh bien ces vidéos vont renforcer ces croyances. Nous vivons dans un monde où la diffusion de théories complotistes et de désinformation ne serait pas possible sans les réseaux sociaux.
Retour en Europe, dans le Valais suisse, là où un homme tente de faire vivre les idées de Q, coûte que coûte. Léonard Sojli est un Albanais très actif à travers son site internet complotiste, une sorte de pont entre les États-Unis et le monde francophone. Cela n'a pas été évident de le convaincre. Par message, Léonard m'a expliqué qu'après chaque interview, il s'est senti trahi dans le reportage qui a suivi. Il accepte quand même de me donner une chance. Depuis les montagnes du Valais, il m'explique comment tout cela a commencé.
Q, il m'a mis sur la piste de la Bible. Je suis venu, j'ai prié. Il y a cette chose qui s'est passée. Et ensuite, j'ai commencé à lire la Bible. Et là, j'ai remarqué qu'en fait, c'est un livre complotiste. La Bible. Parce que qu'est-ce qu'elle te dit, la Bible ? Que le diable complote contre Dieu. Qui est le diable ? Ben, c'est cette entité qui cherche à séparer, à diviser, à détruire. Regarde le monde aujourd'hui.
Léonard m'a demandé de le tutoyer. Et il ne souhaite pas que je révèle le nom du petit village où il habite, histoire de préserver sa vie privée. Depuis près de 2 ans... il s'est lancé dans ce qu'il appelle une guerre d'information contre l'État profond. Dans son chalet, il réalise des vidéos en direct, commente les messages de Q et critique les mesures sanitaires imposées par le gouvernement français. Léonard considère son travail comme un acte de résistance.
Si on observe d'un point de vue psychologique les mécanismes qui poussent les uns à faire les choses, les mécanismes qui poussent les autres, c'est exactement les mêmes que dans la Deuxième Guerre mondiale, à la différence qu'aujourd'hui on a Internet. Et donc, les résistants de l'époque, tu vois, ils n'avaient pas ce moyen de communiquer entre eux. Et devine quoi? Les résistants de l'époque étaient aussi les complotistes.
Là, tu vois toi comme un résistant?
Je ne veux pas m'accorder cet honneur, moi. Ce n'est pas à moi de dire ça, en fait. Qu'est-ce que je suis? Par contre, je résiste à cette rhétorique officielle qui veut me mettre des choses, qui veut me forcer à faire des choses. Je résiste et je résisterai jusqu'au bout.
Mais c'était des résistants qui résistaient à un pouvoir fasciste. Est-ce que aujourd'hui...
Qu'est-ce qu'un pouvoir fasciste? Prends le mot fasciste et compare-le avec les pouvoirs d'aujourd'hui.
Ça veut dire que tu considères que maintenant, on est dans un système qui est comparable?
Dans un système comparable avec le début du fascisme, ouais.
Tu sais que ce que tu peux penser ou dire fait que des gens...
Me considèrent dangereux, ouais.
Dangereux, fou, à côté de la plaque?
Je sais pas, moi je... Tu veux que je te dise quoi, en fait, sur ça? Leur avis ne m'intéresse pas, en fait, parce que je dors pas avec eux la nuit. Tu vois? La nuit, je vais aller me brosser les dents, je vais voir ma gueule dans le miroir. Et avec cette chose-là, je vais devoir aller dormir. Et donc, c'est avec cette chose-là que je dois être d'accord, pas avec les spécialistes. Les spécialistes, j'en ai rien à foutre.
L'enquête se termine à Paris, où je décide de laisser le mot de la fin à Samuel Laurent, le journaliste du Monde. J'ai envie de savoir ce qu'il pense des théories de Q et de ceux qui y croient.
Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces mouvements, une fois qu'ils sont lancés, ils ne s'arrêtent pas devant, il n'y a pas de mur du réel. QAnon, finalement, c'est un truc qui, depuis 2018, n'a pas arrêté d'annoncer pour l'année prochaine, l'année d'après, dans 2 mois, dans 3 mois, les arrestations, les exécutions, les machins, les trucs. Une fois que vous avez une organisation qui s'est constituée, un de ses buts, ça va être de trouver des moyens de continuer à exister en tant qu'organisation. Et je pense que c'est un peu ce phénomène-là qui se joue aussi, c'est-à-dire que ces gens-là, finalement, c'est leur vie. D'autant plus avec QAnon, où souvent, ils se coupent de leur famille, ils se coupent de leurs amis, ils rentrent vraiment dans ce délire-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire si on leur enlève ça? C'est très très dur mentalement de, quand on s'est construit là-dessus depuis des années. Vous imaginez si on vous dit, bah non, en fait tout ça c'était faux.
Nous sommes de retour en studio avec nos invités. Michaël Dantine, bonjour. Vous êtes docteur en criminologie à l'Université de Liège. Sylvain Cavalier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez adhéré à des théories complotistes. Aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle un débunker, c'est-à-dire que vous déconstruisez les discours conspirationnistes sur les réseaux sociaux. Vous êtes en direct avec nous par téléphone depuis Paris. Le complotisme, c'est un mouvement qui existe depuis toujours, pratiquement. Michaël Dantine, il n'est pas né avec la crise sanitaire, quels sont les mécanismes qui nourrissent ce phénomène?
Alors effectivement, c'est relativement ancien, mais évidemment, il y a un fait de halo, si vous voulez, actuellement, et certainement un élargissement du bassin des théories conspirationnistes et de ceux qui y adhèrent. Je dirais qu'on peut définir le conspirationnisme ou le complotisme comme une espèce de pensée hégémonique et essentialiste, si vous voulez, tout est complot, qui est une remise en cause de la version officielle des autorités, mais au sens très large, c'est-à-dire aussi des médias traditionnels comme le vôtre. Et cette version serait fausse, faussée, mais pas seulement, hein, parce que ça, c'est la fake news, en réalité. Mais dans le complotisme, il y a l'idée que c'est volontaire et que tout cela est étourdi par des individus plus ou moins identifiés. Parfois, c'est très nébuleux, parfois, c'est un peu plus ciblé, mais jamais très précisément. Et qui travestissent la vérité pour servir leur intérêt. Alors, je pense que ça s'inscrit, si vous voulez, dans un air du temps aussi de défiance par rapport à la parole publique, par rapport à tout ce qui incarne l'autorité, et pas nécessairement politique, l'autorité de l'instituteur, l'autorité de l'administration, enfin, voilà. Il y a un terreau sociétal, il y a évidemment le terreau des réseaux sociaux qui joue un rôle, et tout ceci a propulsé les théories conspirationnistes un peu sur le devant de la scène, les a rendues plus accessibles. Et puis, il y a toute une série de facteurs aussi qui font qu'on y adhère, on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Sylvain Cavalier, vous, qu'est-ce qui vous a fait basculer dans cet univers?
C'était un ami qui m'avait montré un documentaire sur l'Égypte ancienne qui disait que ce n'était pas les Égyptiens qui avaient construit les pyramides, mais que c'était possiblement une ancienne civilisation avancée, aujourd'hui disparue, tout ça. En fait, à partir de cette vidéo de pseudo-archéologie, enfin, du coup, c'était évidemment pas très très sérieux, hein. C'était fait par des gens qui n'étaient pas du tout spécialistes, mais le documentaire était particulièrement bien fait. En fait, ça m'a fait me dire que, bah, tiens, on m'a menti là-dessus à l'école, en fait, on a pu mentir sur plein d'autres choses. Finalement, il y avait une espèce de curiosité, il y a un champ de connaissances nouvelles qui s'ouvrait devant moi, en fait. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à croire à diverses théories du complot au fur et à mesure de mes navigations sur YouTube, en fait, tout simplement. C'était il y a une dizaine d'années, hein, ça c'était pas récent. À l'époque, c'était encore assez confidentiel. Mais quand même, sur YouTube, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de contenu là-dessus. Et il y avait des vidéos notamment sur les théories du complot du 11 septembre, sur les chemtrails, sur ARP, sur l'assassinat de JFK, enfin plein de sujets comme ça.
Alors comment finalement vous en êtes sorti de cette mouvance, de ces croyances ?
C'est un travail long, on n'en sort pas aussi vite qu'on y rentre finalement. Ça a été un rétro-pédalage assez long. En fait, ça a commencé parce que du coup déjà j'avais des doutes sur une des théories du complot qui était le Moon Hoax, le canular lunaire, le fait qu'on ne serait jamais allé sur la Lune en 69. Moi, j'étais passionné d'astronomie depuis tout petit, donc j'avais des bouquins qui détaillaient toutes les missions Apollo et tout, donc ça me paraissait bizarre, cette histoire. Je m'y intéressais pas trop, puis dès que je m'y suis vraiment, vraiment intéressé, après, on va dire, un an et demi, deux ans de complotisme, je me suis aperçu, pour la première fois, en fait, que les documentaires que je regardais sur le sujet étaient bourrés d'approximations, de déformations, de manipulations grossières, de trucs faux, en fait, tout simplement. Pour la première fois, j'avais vérifié des infos qui étaient données dans un docu complotiste et j'avais découvert qu'il y avait plein de choses fausses.
Michael Dandine, quand vous entendez l'histoire de Sylvain Cavalier, ça vous parle ? C'est un peu comme ça que ça s'est passé pour beaucoup de ces adeptes des théories conspirationnistes ?
Oui, je pense que dans ce qu'il a dit, il y a déjà quelque chose de très intéressant, c'est qu'on y entre facilement et on en sort difficilement. C'est ce qu'on peut dire des sectes, sans confondre les deux processus, mais c'est quelque chose déjà de très parlant. C'est extrêmement puissant, en fait. C'est un enfermement. Je vous parlais tout à l'heure de pensée hégémonique, c'est-à-dire qu'une pensée hégémonique, c'est que ça explique tout et que c'est difficile à contredire. Donc là, il y a eu un travail intellectuel qui a été fait, cognitif et certainement affectif, qui a permis d'en sortir. Je pense qu'il y a des facteurs, si vous voulez, qui suscitent cette adhésion sur des théories qui, il faut le dire, sont aussi extrêmement bien faites. Alors, particulièrement volumineuses, il faut quand même souligner qu'un des principes des théories conspirationnistes, c'est qu'elles sont coproduites. C'est une coproduction ouverte. Chacun y apporte une petite couche. C'est ce que Bronner, spécialiste français de la question, appelle le millefeuille argumentatif. En fait, chaque feuille est relativement friable, mais une fois superposée, l'ensemble est quand même très dur à couper, donc à démonter. Et puis, dans les croyances conspirationnistes, ce qui fait qu'à un moment donné, on y adhère, eh bien là, il y a un entrelac de facteurs qui se met en jeu. C'est-à-dire que ça peut tomber simplement sur un même individu, ce contact avec une théorie, à un moment différent, qui va faire qu'au moment T, il ne va rien se passer, au moment T plus 1, il va y croire. Parce qu'il y a eu des faits dans sa vie, parce qu'il y a un sentiment de solitude, parce qu'il y a la perception qu'on est discriminé, qu'on n'a pas d'importance, il y a une volonté de se singulariser. Tout ça n'est pas jugeant ni négatif, c'est analytique. Et fait en sorte, si vous voulez, qu'à un moment donné, on se dise « moi j'ai envie d'y croire, je pense que ça va m'apporter quelque chose ». Et d'ailleurs, je rencontre aussi, c'est très important, d'autres qui y croient et qui pensent comme moi. Et par exemple, ça vient combler un certain nombre de mes besoins.
Une période d'incertitude, de crise, comme on l'a connue avec la crise sanitaire du Covid-19, c'est propice à développer encore ces comportements-là ?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a une composante cognitive de l'ordre des perceptions, comment est-ce que je lis le monde ? Et le complotisme dit, c'est facile, tout est complot. Et puis, il y a une dimension affective. Et quand on est dans une période d'anxiété et encore plus de frustration avec des confinements qui ont été très stricts, ces deux affects font qu'à un moment donné, on a envie d'en sortir. Et une des manières d'en sortir, c'est de se dire, mais tout ça est faux. Non seulement c'est faux, mais en fait, tout ça est inventé pour d'autres raisons. Et il ne faut pas croire que, alors qu'on est sorti des confinements stricts, peut-être un jour avant d'y retourner, il ne faut pas croire que l'adhésion qui est acquise à un moment donné va, pour certains individus, disparaître avec la levée de ces confinements.
Justement, on en est où alors aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que cette crise du Covid, elle est toujours un peu là, mais elle est moins présente dans notre vie au quotidien. Est-ce que ça veut dire que ces complotistes-là, ils ont disparu ?
Ah non, le danger, si vous voulez, c'est que ça ait servi cette période comme une espèce de campagne de promotion, le Covid étant un produit d'appel pour les théories conspirationnistes. Et que finalement, si on nous a menti là-dessus, On pourrait nous avoir menti sur plein d'autres choses. J'avais encore récemment un dialogue impossible avec quelqu'un qui adhère à ces théories, qui me disait « On a fait passer le pass vaccinal et on vient de le prolonger potentiellement parce qu'on fera un pass pour tout, parce qu'on veut nous contrôler pour tout, on va nous retirer la propriété. » C'est globalement l'idée du Great Reset, hein, qui est là derrière, qui est une théorie conspirationniste.
Le grand remplacement ?
Ouais. Ah, le Great Reset, non, c'est le grand redémarrage. C'est-à-dire qu'on va redonner la donne de la société. Et le grand remplacement, c'est aussi une théorie conspirationniste. Et c'est d'ailleurs très, très inspirant de voir que dans la campagne d'Éric Zemmour, elle a été utilisée de manière complètement éhontée comme un moteur de campagne, comme si c'était une thématique comme le chômage ou la santé. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qui est en train de se passer, au même titre que ce qui s'est passé aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de ce que le conspirationnisme peut créer, les dangers que ça engendre, mais là on a eu des exemples qui peut-être ne nous ont pas frappés, parce qu'on est belge et même si la France est tout près, les États-Unis sont encore plus loin, mais qui sont quand même vraiment, vraiment interpellants.
Sylvain Cavalier, vous êtes français. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Quelles sont les théories qui fonctionnent aujourd'hui ?
Oui, je partage tout à fait cette analyse. Il y a pas mal de vieilles théories qui sont revenues à la mode. Il y en a d'autres qui apparaissent. C'est vrai que le Covid est en train de... Enfin, toutes les théories du complot autour du Covid sont en train de perdre un petit peu d'audience, on va dire. On a vu que, par exemple, il y avait certains appels au rassemblement en France, là, en juin, qui ont été très, très peu suivis par les complotistes. Hein, je pense notamment à ce qu'ils ont appelé l'appel du 18 juin, qui... sorte de reprise du vocable de la résistance à la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu très très peu d'audience, ils étaient quelques dizaines, ça n'a pas bien marché. Et en fait, on voit qu'il y a de nouvelles thématiques, enfin, on va dire qu'il y a des thématiques anciennes qui reviennent, comme par exemple les chemtrails, qui étaient en tendance il n'y a pas très longtemps sur Twitter, avec la reprise du trafic aérien. Du coup, il y a de nouveau plein d'avions dans le ciel qui laissent des traînées de condensation. Donc, de nouveau, cette théorie des chemtrails qui dit qu'en fait, c'est pas des traînées de condensation, mais des traînées de produits chimiques volontairement répandus par les gouvernements sur nous et tout. Tout ça, ça revient en force.
La guerre en Ukraine, ça alimente aussi des théories.
Évidemment, j'allais le dire aussi, évidemment, la guerre en Ukraine, la guerre qui est toujours un sujet prolifique de désinformation, de fake news et de théories du complot, avec évidemment un renversement de la réalité. Avec tout qui est à cause de l'OTAN, tout qui est à cause des États-Unis, tout qui est à cause de la France, mais jamais à cause de Poutine, évidemment.
C'est quelque chose qu'on a remarqué chez des complotistes qu'on suivait pendant notre enquête en 2021. S'ils ne parlaient que du Covid à l'époque, ils parlent aujourd'hui beaucoup de l'Ukraine. C'est vraiment une thématique porteuse, Michael Dantine.
Alors, absolument, parce qu'en réalité, on a là un lien comploto-extrémiste. Hein. C'est-à-dire que... On voit que, et des recherches l'ont démontré, on sait que ça fonctionne très bien sur le plan des éléments théoriques, puis on a des cas aussi, à un moment donné, d'une cohabitation chez certains individus ou groupes d'individus, d'adhésion de croyances conspirationnistes et, à un moment donné, de pensées extrémistes. Et donc, on a une étude assez célèbre qui a été faite en France qui montre que les gens qui adhèrent davantage aux théories conspirationnistes votent plus à l'extrême droite et aussi à l'extrême gauche. Donc, c'est certainement pas un hasard. Et Poutine est, pour une partie des conspirationnistes, un modèle qui trace sa route parmi la désinformation. Et donc, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est un excellent laboratoire de tous ces liens, si vous voulez, les complotistes disant « il ne se passe rien en Ukraine », c'est une manipulation de l'information. Et puis, il y a la propagande, hein, évidemment, russe, qui bombarde fake news et de complotisme aussi. Et en fait, on voit qu'au final, ce qui est vraiment au centre de tout ça, donc du complotisme, mais aussi de l'extrémisme quand on y réfléchit, donc du radicalisme violent, donc du passage à l'acte violent, donc éventuellement du terrorisme, c'est aujourd'hui un débat sur ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est un débat sur la vérité. Et ça, c'est quand même assez intriguant. C'est-à-dire que même des vérités scientifiques démontrées viennent à être remises en cause. J'enclenche de l'eau, je la mets à chauffer, le phénomène de sublimation, l'ébullition arrive autour de 100 degrés. On arrivera encore à remettre ça en cause, alors qu'on peut se dire que c'est de la science dure et c'est difficile, mais vous imaginez la remise en cause de la vérité dans les sciences molles, où finalement on n'a pas une interprétation, une cause, une relation monocausale. Et donc vous avez un débat aujourd'hui fondamental sur la vérité, et notamment ceux qui sont visés en première ligne, ce sont les médias. On peut diffuser des émissions en se disant « tiens, peut-être qu'on va jouer un rôle pour ceux qui adhèrent aux croyances conspirationnistes, mais ceux-là ne vous écoutent pas ». Et souvenez-vous, ce n'est plus un secret, qu'au détour d'une manifestation de la fin de l'année dernière, un mot a circulé sous le manteau ici à Bruxelles pour se donner rendez-vous devant les grilles de la VRT et de la RTBF avec des revendications et des gens qui étaient potentiellement violents. Parce qu'à un moment donné, l'idée, c'est que les médias sont à la solde de ces élites qui ourdissent les complots et qu'ils nous mentent. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable sur le rôle des médias. Et donc, quand une société n'est même plus d'accord sur ce qui est vrai pour une partie, je pense qu'on est dans une ornière, sans verser dans le catastrophisme, bien évidemment, mais qui est extrêmement profonde, et en plus d'être profonde, elle est dangereuse.
Ce basculement dans la violence, c'est ce qui s'est passé finalement aux États-Unis le 6 janvier 2021 au Capitole aux États-Unis. Capitole qui a été envahi par des émeutiers parmi lesquels de nombreux membres du mouvement conspirationniste QAnon, mais aussi des sympathisants d'extrême droite, des néo-nazis. Ils étaient alors soutenus par Donald Trump, encore président des États-Unis. Depuis, Donald Trump il a quitté la Maison-Blanche. Or, ses adeptes le voyaient revenir au pouvoir. Tristan, où est-ce qu'on en est du coup aux États-Unis ? Est-ce que la défaite de Trump a fragilisé ce mouvement QAnon ?
Bien, il y a un tournant, c'est l'investiture de Joe Biden. C'est un coup d'arrêt très important pour les partisans QAnon, car beaucoup voyaient Donald Trump redevenir président des États-Unis et qu'importe le résultat des élections, peut-être grâce à des manifestations ou même à la guerre civile. Rien de tout cela n'a donc eu lieu. C'est une désillusion pour beaucoup qui comprennent peut-être qu'ils se sont fait flouer, que les messages de Q étaient finalement de la pure fantaisie. Il y a donc clairement une partie du mouvement qui s'est délité. Pourtant, on remarque que des gens continuent d'y croire. Le mouvement, il vivote à certains endroits, mais il y a des initiatives individuelles, des genres de sous-groupes qui maintiennent en vie QAnon.
Sylvain Cavalier, ce mouvement QAnon, à quel point il a été important au niveau mondial dans le développement de cette mouvance complotiste ?
Il a été très important, il s'exporte très très bien. On voit que ça a démarré avec la théorie du Pizzagate, initialement, cet imaginaire QAnon, une théorie qui disait qu'il y avait des rituels, sacrifices satanistes, pédosatanistes dans les sous-sols d'une pizzeria à Washington par le clan Clinton et tout. Et en fait, ça, c'était pas très, très exportable. Et en 2017, ça s'est développé, cette idée, ça s'est généralisé. C'est-à-dire, le réseau pédosataniste, il est pas seulement sous une pizzeria à Washington, en fait, il est partout. Tout le temps, toutes les élites libérales, mondialistes y participent. Et en fait, du coup, ça s'exporte très, très bien à absolument tous les pays. On a vu des QAnon après un petit peu essaimer partout à partir de 2018 sans problème. Après, il faut voir que le mouvement, même s'il a connu un certain coup d'arrêt effectivement à partir de 2020, enfin de l'investiture en fait de Joe Biden, il y a quand même encore des tas de sous-courants qui subsistent. Il y a des nouveaux leaders qui ont émergé de ces mouvements-là. Il y a en plus Q qui n'avait plus rien posté depuis décembre 2020, qui s'est remis à poster il y a quelques jours.
Oui, on peut d'ailleurs s'arrêter un instant sur ces messages et sur l'identité de Q, puisque début de l'année, une entreprise suisse est parvenue à le démasquer. Claude Alain Rotten a développé un logiciel capable d'identifier l'auteur d'un texte. Ça s'appelle la stylométrie. Il se base sur des caractéristiques qui reflètent un style d'écriture, la manière d'écrire, la manière d'aligner les mots, des paires de mots, la ponctuation, etc. Une sorte d'ADN d'écriture. Il a donc pris les messages de Q, ce qu'il appelle le corpus, l'a analysé et l'a comparé avec d'autres textes disponibles sur Internet.
Alors, dans l'urgence de l'élection présidentielle américaine, on a fait les analyses et le premier élément qui est ressorti en faisant une analyse du corpus sans avoir suffisamment de textes de candidats possibles, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà deux styles qui apparaissaient, donc au minimum deux auteurs. Et rien que le fait de faire apparaître deux auteurs dans ce corpus, c'était déjà casser le jouet QAnon. Car pour les sympathisants QAnon, c'est un seul fonctionnaire américain qui écrit ses messages pour défendre les électeurs américains d'une élite démocrate, pédophile, satanique, cannibale.
Alors, il ne s'est pas arrêté là, parce qu'avec son équipe et le prestigieux New York Times, Claude Alain Rotten est allé plus loin. Il a récupéré d'autres textes de candidats possibles, d'auteurs possibles, et il est parvenu avec une quasi-certitude à débusquer les deux auteurs des messages de Q.
On a identifié Paul Farber, qui est un Sud-Africain, on va dire assez caractéristique de ce qu'on peut trouver dans certains partis politiques sud-africains, white supremacist, apologie des armes. Et le deuxième, c'est Ron Watkins. Donc, c'est une personne dont le père est un militaire américain, la mère est sud-coréenne, si j'ai bien compris. Il a vécu aux États-Unis, en en Asie, aux Philippines, etc.
Ce Ron Watkins, Michael Dantin, il est associé aussi à des mouvements d'extrême droite, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce lien étroit entre des extrêmes et cette mouvance complotiste. Le FBI a quand même classé le mouvement QAnon dans la catégorie des groupes qui peuvent représenter une menace terroriste. Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de cette menace liée à des groupes potentiellement conspirationnistes ?
Elle est bien réelle, mais difficile à chiffrer, bien entendu. On voit qu'il y a une compatibilité entre le logiciel d'extrême droite, par exemple, et le conspirationnisme. Mais c'est la même chose entre l'antiféminisme, la misogynie, les incels et l'extrême droite. Et donc, aujourd'hui, il y a, je pense, un ensemble de faits déjà avérés, violents, qu'on a pu voir, où on a des individus dont il sera difficile de déterminer un jour si finalement leur passage à l'acte était davantage motivé par la dimension conspirationniste de leur personnalité ou bien la dimension d'extrême droite. Et d'ailleurs, on l'a vu dans différentes manifestations, on voit tout ça cohabiter entre des gens qui sont très légèrement adhérents à des théories conspirationnistes et des gens d'extrême droite qui vont vraiment, eux, tenter de les récupérer, et au milieu, encore une grande diversité de profils. Donc, on a là quelque chose de vraiment problématique, rajouter une touche de maladie mentale, qu'on voit quand même là aussi de temps en temps intervenir, et vous avez quelque chose qui forme un cocktail détonnant. On peut prendre Tobias Rachen à Hanau en Allemagne, il y a quelques années. Il pense que nous sommes contrôlés par les services secrets, par des puces qu'on nous a implantées dans le cerveau. Il adhère à toute une série de corpus conspirationnistes. Il est clairement d'extrême droite. Il est un peu incel. Il est homophobe. Et il va tuer des gens à la sortie d'un bar à chicha. Donc voilà, c'est la problématique. Et je pense que c'est une réelle problématique parce qu'en réalité, comme c'est un monde très open finalement que les théories conspirationnistes, et comme on a ces profils un peu hybrides, eh bien pour les services de sécurité, c'est extrêmement difficile à suivre. Mais je pense qu'on peut se référer à des éléments tangibles. J'évoquais tantôt une manifestation, une des grosses manifestations ici à Bruxelles internationale. On a eu une note qui a fuité dans les médias. Très clairement, on voyait un ensemble de groupuscules essentiellement d'extrême droite, avec des médecins, clairement, conspirationnistes et d'extrême droite, avec des catholiques intégristes qui flirtent avec l'extrême droite, qui bras dessus, manifestaient. Et je pense que c'est ça aujourd'hui aussi la réalité du monde. Et je parlais tantôt de challenge de la vérité. Si vous revenez à l'extrémisme et au terrorisme islamiste, en fait, il y a aussi ce challenge de la vérité. C'est nous prenons le vrai islam, pas l'islam dévoyé. Et donc, on est toujours, si vous voulez, sur le même problème, avec, je pense, aujourd'hui, quelque chose qui est peut-être un peu moins clairement lisible que ce qu'on a connu, sachant que c'était déjà difficile avant de détecter des gens. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ça l'est encore plus.
Sylvain Cavalier, votre rôle à vous aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est justement de décortiquer, de démonter cette théorie complotiste, un rôle qui est toujours essentiel selon vous et qui le sera encore dans les prochaines années ?
Oui, je pense que c'est important d'apporter une voix contradictoire, en fait, tout simplement d'être là, quoi, d'occuper le terrain, de montrer qu'il y a des arguments plus raisonnables dans l'autre sens. J'ai reçu quand même pas mal de messages depuis des années de gens qui me remercient pour leur avoir fait changer d'avis ou leur avoir un petit peu
ouvert les yeux,
éclairé sur certains sujets. Voilà, enfin, ouvert les yeux, moi j'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'il est plutôt utilisé de l'autre côté, si j'ose dire, le terme d'ouvrir les yeux, d'être éveillé, tout ça. On a vu après mon travail, c'est aussi de montrer un petit peu l'actualité autour de ça, d'essayer de voir les conséquences, les effets du conspirationnisme sur la société. Il y a quelques jours, là récemment, il y a eu la fusillade du 4 juillet. Le tireur, en fait, se faisait appeler le rappeur éveillé, Awake the Rapper, sur les réseaux sociaux, qui faisait donc du rap, de la musique, où il disait I'm the storm, are you awake, enfin une espèce de vocable très très conspirationniste, possiblement QAnon. Donc moi, ça m'interpelle de voir tous ces liens qui sont établis entre l'extrémisme et le conspirationnisme, et donc je pense que j'essaye de contribuer en fait à rendre un petit peu le débat public un peu plus mesuré, un peu plus nuancé, en tout cas à mon échelle comme je peux, avec des arguments. C'est un petit peu mon but aujourd'hui.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités. Merci à Amaury Boucher pour son soutien technique. Et merci à vous qui nous écoutez.